Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
62 km de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France. Nous sommes dans les derniers hectomètres de ce col de la Croix classé en première catégorie. Bob Jungels a encore quelques secondes d'avance. Oui, une vingtaine de secondes d'avance. Alors que derrière, ça a réagi. Bob Jungels, le coureur luxembourgeois de la formation AG2R Citroën, qui donne tout là dans les derniers hectomètres. Mais Simon Geschke, Christophe, est remonté derrière lui. Il va peut-être le reprendre dans quelques instants. Il est impressionnant, le coureur de la Cofidis. Là, dans ce final de col.
Oui, par le passé, il a déjà fait des grandes embardées en montagne comme celle-ci. Il adore ses ascensions. Il revient très très fort sur Jungels à moins de 500 mètres du sommet. Il est même pas sûr, Jungels, de marquer les points. Mais attention à ce duo qui peut faire très très mal après une vallée à peu près de 18 km de descente, une vallée de 20 km et ensuite la dernière ascension. Il est peut-être intéressant de voir ces hommes se relancer à l'avant, en tout cas du grand Geschke derrière.
Voilà, Geschke qui attend de revenir sur Bob Jungels à 400 mètres du sommet. Derrière, et bien derrière, c'est un peu plus compliqué, notamment pour Pierre Latour qui avait attaqué tout à l'heure à 3 km du sommet, mais une attaque un peu vaine, Cyril, qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, il est en difficulté alors qu'il chassait tout à l'heure les points du maillot du meilleur grimpeur.
Oui, ça c'est difficile de comprendre que ayant passé le premier col en tête, marquant 5 points pour le classement de la montagne, qu'il allait courir. J'ai peut-être fâché, mais je pensais qu'il allait peut-être courir intelligemment et bien gérer cette montée pour aller passer, essayer de passer au sommet en tête et se retrouver donc avec le maillot du meilleur grimpeur. Là, il est sorti à 4 bornes de l'arrivée. Bon, il faudra qu'on m'explique un jour, mais bon, pourtant il y a des oreillettes. Mais là je suis désolé, c'était n'importe quoi.
Alors Geschke qui va passer en tête au col de la Croix dans quelques instants. Bob Jungels ne va pas lui disputer les points de ce classé en première catégorie. Donc de gros points pour Simon Geschke, le coureur de la formation Cofidis, qui passe devant Bob Jungels. Les autres anciens compagnons d'échappée sont un peu disséminés dans la montée. On va voir où ils en sont. En tous les cas, il y avait une petite trentaine de secondes d'écart, Pierre-Yves, avec donc en troisième position, me semble-t-il, Wout van Aert, à moins que quelqu'un d'autre.
Wout van Aert avec Rigoberto Urán.
Non, il y en a
et Warren Barguil sont en train de passer. Il y en a d'autres devant, on va faire les comptes, ouais. Mais en tout cas, c'est Geschke qui va chercher les 10 points au sommet ici au col de la Croix.
Le Grand Prix d'Autriche avec Charles Leclerc qui vient de passer au stand, Jean-Luc.
Et oui, exactement, puisque finalement, devant la dégradation des performances, semble-t-il, hein, il perdait, je viens de le dire, 6 à 7 dixièmes de seconde, évidemment, par tour. Donc, comme il reste 22 tours maintenant à parcourir, eh bien, on a choisi chez Ferrari d'arrêter à nouveau Charles Leclerc pour lui monter un nouveau train de pneumatique dur. Denis, cela, a priori, quand même, il devrait aller au bout, mais chez Pirelli, on n'avait absolument pas envisagé une dégradation aussi rapide des pneumatiques durs.
Oui, enfin, je crois que c'est un peu une des particularités de ce circuit. Il y a 3 zones de DRS, de dépassement sont loin d'être impossibles. Et ça favorise aussi l'envie de changer les pneus si on se met à en douter un petit peu. Je crois aussi que Leclerc, il était quand même gêné dans sa progression par le fait qu'il rattrapait des gens. C'est-à-dire que sur ce genre de petit circuit, eh bien, le sixième, il est déjà à un tour. Donc quand on est le leader, il faut doubler ces gens-là. Et c'est d'autant plus difficile que ces gens-là, ils sont en bagarre rapprochée. Il y avait des bagarres entre Russell, Mick Schumacher, Magnussen, etc. Donc on perd du temps pendant ce temps-là. Donc là, en fait, il s'arrête. Il va arrêter de se mêler auprès de tous ces petits gens-là. Et puis, il va pouvoir reprendre son rythme et tout à fait se reprendre, je pense, la main sur la course.
Et voilà, ça, Carlos Sainz dans les stands, ouais. Maintenant. On arrête la deuxième Ferrari également, Christophe. Ça veut dire que Verstappen reprend le commandement de ce Grand Prix avec 2,5 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Rien n'est joué encore, plus de 20 tours de l'arrivée.
Et oui, il va y avoir une belle bagarre pour la victoire dans ce Grand Prix, en espérant évidemment que tout se passe bien pour Leclerc et Carlos Sainz. C'est les pilotes Ferrari qui tentent de ravir cette victoire à Max Verstappen. 16h03, le tennis. Djokovic avait débuté de manière un peu diesel cette finale de Wimbledon. Et bien désormais, il a repris la main, il va bientôt peut-être égaliser un set partout, Eric.
Ouais, c'est bien parti pour Novak Djokovic, puisqu'il s'est détaché 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Je pense que c'était un soulagement pour lui de prendre la mise en jeu de Nick Kyrgios, qui est une sorte de citadelle imprenable. Donc il est en bonne position, 6-4 Kyrgios, 4-1 Djokovic.
Merci messieurs, il est 16h03 sur RMC
jusqu'à 18h.
Intégral Tour,
Christophe Cessieux.
16h08, vous êtes sur RMC où vous vivez trois événements sportifs en simultané cet après-midi. La 9e étape du Tour de France, on est à 52 km de l'arrivée. La finale de Wimbledon où Kyrgios mène 1-7-0, mais Djokovic a pris la main dans la deuxième manche. Et le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, Jean-Luc Roy, où Charles Leclerc a repris les commandes de la course. Il est énorme cet après-midi, le pilote monégasque de la Ferrari.
Et oui Christophe, c'est un chassé-croisé en permanence en fonction de l'état des pneumatiques, puisque on a fini par arrêter donc Charles Leclerc au 49e tour pour lui chausser un deuxième train de pneumatiques durs. On l'avait fait au 36e pour Verstappen et on voit la dégradation vraiment très rapide de ces pneumatiques. Il faut préciser ici, Denis, que Pirelli a apporté les trois qualités de gomme les plus tendres, c'est-à-dire que même les pneumatiques entre guillemets qualifiées de durs ici sont les pneumatiques moyens de la gamme Pirelli. Et bizarrement, effectivement, il se dégrade très très rapidement sur ce tracé, on va dire, après une douzaine de tours.
Oui, absolument, tu as raison de le mentionner. C'est un choix de Pirelli, mais je pense qu'il est un petit peu aussi pour privilégier la performance à la longévité, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un circuit sur lequel les dépassements sont loin d'être impossibles. Donc ça participe aussi à la beauté du spectacle. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on a un beau spectacle.
Ah oui, on a Charles Leclerc, donc leader, maintenant avec 4 secondes 4 d'avance sur Verstappen. Est-ce que Verstappen pourra aller au bout avec ce train de pneumatique? C'est même la question qu'on peut se poser, alors que Sainz également derrière est très rapide et Sainz ne va pas tarder à placer une attaque également au détriment de Max Verstappen. Dans un instant, Christophe, on pourrait avoir deux Ferrari en tête de ce Grand Prix d'Autriche. 56 tours ont été couverts sur les 71 à parcourir.
Eh bien voilà, une bonne nouvelle. On revient vers vous dans quelques instants. La finale homme de Wimbledon. Où en sont les deux finalistes, Eric Salio, dans la deuxième manche, me semble-t-il.
Oui, absolument. Novak Djokovic qui s'est libéré en ravissant la mise en jeu de Nick Kyrgios en début de deuxième manche. Il est en position donc pour gagner une manche partout. 5-2 pour le Serbe, le triple vainqueur. Et Nick Kyrgios est au service pour tenter de retarder l'échéance. Mais on a vraiment senti la bascule hein, sur un ou deux échanges. Le Serbe a imposé, a dicté sa loi. Il a empêché Kyrgios de tricoter. Et donc il est bien placé pour recoller une manche partout.
Ok Eric, retour sur le circuit de Spielberg. Jean-Luc, avec un petit problème mécanique, un gros problème mécanique même pour Carlos Sainz sur sa Ferrari qui était en feu, en tous les cas l'arrière de la Ferrari.
Ah oui, l'arrière est en feu et le pilote d'ailleurs quitte rapidement sa monoplace. Il n'a pas pu l'immobiliser. On est au niveau du virage numéro 4. Et oui, ce sont des sports mécaniques, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et encore un problème de fiabilité mécanique pour Ferrari. Voilà, Carlos Sainz a pu s'extraire sans problème de cette Ferrari, mais vraiment il est sorti à toute vitesse et les commissaires de piste, à qui il faut rendre hommage à nouveau, interviennent. Malheureusement, encore une panne mécanique chez Ferrari. Là, on ne pourra pas nous dire que c'est un petit problème électrique, hein. C'est un gros problème de moteur, semble-t-il, avec un liquide qui a pris feu. Est-ce que c'est du carburant ou de l'huile, Denis ? Difficile à dire. En tout cas, ça veut dire que là aussi, jusqu'au bout, eh bien Charles Leclerc va trembler. Il reste 14 tours à parcourir pour le moment.
Oui, non, enfin, je crois qu'on a très bien vu avant justement que Sainz soit obligé de réduire sa vitesse, on a très bien vu ce tout petit nuage de fumée blanche qui sortait de l'arrière de la voiture et qui est typique d'une casse moteur qui est en train de se préparer et qui là est effectivement, je crois, typiquement avéré. Ce qu'il faudrait pas surtout, c'est que même si heureusement la voiture a pu s'en aller loin, ce qu'il faudrait pas, c'est que ça mette un safety car et que ça ramène à zéro l'avance de Leclerc sur Verstappen.
Alors on déploie le virtuel safety car justement pour répondre à ta question. Pour le moment, alors on vous rappelle la différence entre le virtuel safety car et le safety car. Le virtuel conserve les écarts entre les pilotes puisque les pilotes doivent réduire leur vitesse notablement de l'ordre de 60%. Et bien sûr on en profite pour aller au stand. Là on a bien réagi pour une fois chez Ferrari. On a arrêté tout de suite Charles Leclerc puisque évidemment chez Red Bull on savait qu'on allait bien réagir. Et on a arrêté également Max Verstappen dans la foulée. Donc les deux hommes maintenant chaussés en pneumatique médium. Ce qui est le cas aussi de Lewis Hamilton. Mais Lewis, lui, on l'avait monté les médiums au 44e tour. Il y a 14 tours maintenant et on peut voir le visage complètement défait pauvre Carlos Sainz sur le bord de la piste. Un abandon pour Carlos Sainz, donc privé éventuellement d'une potentielle deuxième place lors de ce Grand Prix. Leclerc est au commandement avec 5 secondes d'avance, c'est pas beaucoup, hein, sur Verstappen. Et derrière, Hamilton est très loin, à 36 secondes. On est sous régime de virtuel safety car pour le moment.
Et combien de tours encore à parcourir, Jean-Luc ?
On est dans le 59e tour. Il reste 12 tours à parcourir. Il y en a 71 de prévus.
Bon, mais pourvu que la Ferrari de Leclerc tienne le choc, alors qu'effectivement Carlos Sainz est particulièrement déçu, il est assis dans l'herbe et il regarde sa Ferrari flamber, même si l'incendie a été stoppé par les commissaires de piste. À tout à l'heure, messieurs, 47 km 300 de l'arrivée de la 9e étape, un homme en tête, il court pour une formation française AG2R Citroën et il est luxembourgeois. Il a bien failli ne jamais prendre le départ du Tour de France, victime qu'il était du Covid. Finalement, eh bien, le nouveau règlement lui a permis d'être au départ et eh bien aujourd'hui il va peut-être aller décrocher une victoire d'étape, même si on est encore très loin de l'arrivée, 47 km.
Mais il descend moins bien qu'un de ses meilleurs amis dans le peloton, un certain Julien Alaphilippe qui est très proche de lui. Là, on l'a vu dans certains virages en difficulté, Bob Jungels qui est à fond vraiment pour creuser avec le groupe derrière, ses anciens compagnons d'échappée qui ont 45 secondes avec notamment Thibaut Pinot, avec Wout van Aert notamment dans ce groupe, à 2 minutes 20 derrière Bob Jungels le peloton, et le groupe le plus attardé, le groupe avec notamment le leader de l'équipe AG2R Ben O'Connor, à 10 minutes 25 déjà à 46 km de l'arrivée.
Alors il devrait y avoir un changement de leader ce soir, non pas pour le maillot jaune, non pas pour le maillot vert, mais pour le maillot à poids de meilleur grimpeur, Pierre-Yves.
Oui, puisque si on fait les comptes pour le moment, le maillot est virtuellement sur les épaules de Simon Geschke qui a 13 points, mais il y a encore des points à aller chercher au pas de Morgin, et Thibaut Pinot qui a 6 points pourrait, pourquoi pas, en passant en tête, lui aussi aller prendre le maillot. En
tout cas, la bagarre a l'air de l'intéresser tout à fait tout à l'heure.
Pas sur la première difficulté, c'est-à-dire le col des Mosses, mais il n'y avait que 5 points à aller chercher.
Ah oui.
Là, il est allé chercher la 3ème place quand même pour le col de la Croix. Donc on va voir. Peut-être qu'il y a un intérêt pour Thibaut Pinot à aller chercher ce maillot tout à l'heure à l'arrivée du côté de Châtel.
Ok, nous repartons à Wimbledon. Fin de la deuxième manche, Djokovic tout près de décrocher le gain de cette deuxième manche, Eric.
Eh bien non, justement, Christophe.
Ah ben
pourquoi
non.
Parce que Novak Djokovic est à 5-3. Oui, d'accord. Mais il y a 0-40 sur sa mise en jeu. Pourquoi ? Parce que Kyrgios a réussi un point absolument somptueux. Il s'est vraiment dépouillé, comme on dit, avec d'abord un passing de revers en bout de course, une demi-volée amortie un peu pas réussi, on va dire, de Novak Djokovic, mais il fallait quand même piquer un sprint, et l'Australien a piqué ce sprint, et en aveugle, eh bien, il a joué une petite balle dans le contre-pied de Novak Djokovic, qui a tenté en plongeant de remettre la balle, mais non, ça ne l'a pas fait, et voilà pourquoi il se retrouve en grosse difficulté, le Serbe, 15-40, 30-40 désormais, grâce à deux bonnes premières balles. C'est un jeu, évidemment, extrêmement important, parce que Novak Djokovic a besoin de revenir à une manche partie, après un premier set, on va dire, dominé par son adversaire. Mais là, il est dans le dur. On va suivre ce point, Christophe, à moins qu'il y ait un truc énorme sur le circuit de F1 ou dans votre étape. 30-40. C'est donc une balle pour revenir à 4 jeux à 5 pour Nick Kyrgios, qui évidemment serait totalement reboosté par le gain de ce point. C'est parti avec un long rallye, Djokovic qui dicte la cadence, mais Kyrgios, alors qu'il va à la faute bêtement. Alors là, il va peut-être le regretter. 5-3 Djokovic, 40-1.
A tout de suite, Eric, pour la suite de cette finale. 43 km, 7 ans de l'arrivée. Bob Jungels dans la descente. Il a encore une quarantaine de secondes d'avance sur le groupe maillot vert, hein, avec Wout van Aert qui est toujours là, toujours dans la course pour aller, pourquoi pas, chercher une victoire d'étape tout à l'heure. Le peloton est pointé avec un retard de 2 minutes 20. L'écart est à peu près stabilisé par rapport au peloton. Jérôme, même, on le comprend, on est dans la descente.
Hein, voilà, dans la descente, l'écart est stabilisé. Il a 50 secondes d'avance sur le groupe van Aert, le groupe maillot vert, et le peloton, lui, a une 30 secondes de retard sur le groupe maillot vert. Donc le peloton s'est rapproché du groupe Thibaut Pinot Van Aert, mais par contre Bob Jungels pour l'instant maintient l'écart dans cette descente avec le groupe maillot jaune, le peloton maillot jaune.
Voilà, Bob Jungels 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. À noter qu'il y a un groupe très attardé avec notamment l'Australien Ben O'Connor. On vous disait tout à l'heure qu'il était proche de l'abandon. Il s'accroche, Christophe, Ben O'Connor, alors qu'il semble vraiment souffrir. Et tout à l'heure il semblait vraiment au bord de l'abandon.
Ouais, c'est vrai qu'heureusement qu'il a eu des coureurs qui étaient plus à l'arrière, qui l'ont doublé, qui lui ont redonné un petit peu le moral. Il a repris quelque peu les roues, il a accompagné ses coureurs qui lui ont permis de se dégager de sa torpeur et de sa misère, et peut-être essayer de penser à des jours meilleurs la semaine prochaine.
Ascenseur émotionnel pour cette formation AG2R Citroën. On rappelle qu'hier, Geoffrey Bouchard, victime du Covid, a été exfiltré du Tour de France, qu'il y a leur leader qui se trouve très attardé à 10 minutes de l'homme de tête. Et l'homme de tête, justement, c'est un coureur de la formation Jaguar, la mondiale. On ne sait plus où donner de la tête avec cette formation, Jérôme.
Ouais, bah, c'est vrai. Heureusement qu'il y a Bob Jungels à l'avant. Ça doit égayer un peu leur journée, leur donner quelque chose à se réjouir. Parce que, alors, même s'il est loin d'avoir gagné encore, hein, Bob Jungels, il reste 42 km, dont le col du Pas de Morgin, qui est vraiment très long, quasiment 16 km. C'est loin d'être fait, mais au moins, ils ont un homme à l'avant. Ben O'Connor, hein, on le sait, il a des problèmes de hanche depuis sa chute à la deuxième étape. Donc voilà pourquoi il est aussi attardé. Mais mentalement, ça doit être dur quand vous venez jouer le top 5, que vous vous retrouvez sur une étape de montagne, mais pas encore très difficile, à plus de 10 minutes de la tête.
Et à 10 minutes de la tête, d'après mes informations, on trouverait aussi Vlasov. Donc ça, oui, c'est très surprenant.
Leader de la Bora.
Ouais. Et donc à vérifier, hein. Mais c'est parce qu'on se méfie. Des fois, il y a des échanges de vélos les transpondeurs, ouais, sont plus les mêmes. Donc,
c'est ça. Des fois, le vélo avec le transpondeur, il est sur le toit s'il a changé de vélo, sur le toit de la voiture. Et il suffit que la voiture suive le groupe Eto et vous avez le transpondeur qui est loin derrière. Ça arrive. Des fois, on se fait piéger comme ça.
À vérifier, parce que Tim Wellens, il y a deux jours, a été annoncé aussi très très loin. Et en fait, non, il était
son vélo.
Donc,
ok. Méfiance. Allez, on revient vers vous. Il reste 41 km. Le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 avec un pilote monégasque sur une voiture rouge qui est toujours en tête. Mais la bagarre fait rage avec Max Verstappen, Jean-Luc Roy.
Oh oui, rien n'est joué effectivement, Christophe. 64 tours ont été couverts sur les 71 à parcourir. Pour le moment, Charles Leclerc et sa Ferrari sont toujours au commandement, mais l'écart s'est réduit, il n'est plus que de 3 secondes 6. On l'a vu d'ailleurs, Max Verstappen, on rappelle que Leclerc, Verstappen et Hamilton sont chaussés de pneumatiques médium, Denis, et on a vu Verstappen tout donner vraiment. C'est d'ailleurs lui qui s'est emparé du meilleur tour en course en 1:07.275.
Oui, absolument. C'est-à-dire que là, Verstappen, et on le connaît, il mène la vie dure à ses adversaires. C'est ce qu'il est en train de faire un tout petit peu à distance quand même vis-à-vis de Leclerc, parce que 3 secondes 5, c'est quand même pas rien. On est loin de pouvoir faire le DRS, etc. On n'est plus qu'à 6 tours de l'arrivée. Sans incident, la performance de Leclerc devrait lui permettre de gagner cette course.
Ok, allez, on revient vous voir dans un instant, alors qu'à l'instant même, Pierre Latour, qui était tout à l'heure échappé, est rattrapé par le peloton. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette étape, Pierre Latour?
C'est la descente. La descente, c'est pas descente son truc, enfers, oui. Pierre Latour. Et puis, il faut pas oublier que maintenant, le peloton n'est plus qu'à 1 minute 20 derrière les poursuivants de Bob Jungels, qui lui a 1 minute d'avance. Donc, forcément, si vous êtes lâché de ce groupe, Wout Van Aert, Thibaut Pinot, le peloton n'est pas très loin. Et donc, dans la descente, ils sont revenus, les équipes de Tadej Pogacar, sur le coureur de l'équipe Total Energy.
Et ils sont toujours trois autour de leur maillot jaune de leader. À 40 km de l'arrivée, Bob Jungels toujours en tête avec 1 minute d'avance désormais. Il creuse les écarts par rapport à ses anciens compagnons d'échappée. Le tennis, c'est l'égalisation. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, Eric. Djokovic a bien égalisé un set partout.
Ouais, ça a été très compliqué pour Novak Djokovic, 6 jeux à 4. Mais je peux vous dire que là, ça fait 2 minutes que Nick Kyrgios est comme un dingue. Il est comme un dingue sur sa chaise. Il a hurlé plusieurs fois, l'enfanti. Genre, comment j'ai pas pu lui piquer son service alors que j'étais à 0-40. Et il y a un moment, l'arbitre a dit, Nick, arrête un peu, parce que là, ça peut être considéré comme du coaching. Donc il est dans un état de pas de folie, mais pas loin. Donc 1-7 partout, ce match est passionnant et on n'est pas au bout de nos surprises, je pense.
Ouh, ça sent le 5-7, ça, non, Eric?
C'est ce que j'ai dit ce matin au Paris RMC.
Ah oui, mais t'es très fort. T'es plus fort que nos parieurs à nous sur le vélo. Hein. T'es un cadeau. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Un set partout donc entre Kyrgios et Djokovic. Il est 16h22. On revient dans un instant sur la route du Tour, sur le Grand Prix d'Autriche pour les derniers tours. Et toujours Charles Leclerc en tête. Et puis pour cette finale de Wimbledon, vous vivez de très beaux moments de sport cet après-midi sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe
Cessieux. On va revenir évidemment dans quelques instants sur la 9e étape du Tour de France. On est à 37 km de l'arrivée. Jungels qui continue de creuser les écarts. 1-10 désormais sur le groupe maillot vert, 2-44 sur le peloton. Mais tout de suite, les derniers tours du Grand Prix d'Autriche de Formule 1. On est inquiet, on est très inquiet pour Charles Leclerc. Il semble avoir un problème d'accélérateur, me semble-t-il, Jean-Luc Roy.
Absolument, Christophe, c'est tout à fait ça. On a vu Charles discuter beaucoup avec son stand, discuter beaucoup avec son ingénieur et se plaindre d'un souci dont on ignorait la nature. Et évidemment, il semblerait, Denis, que ce soit un problème de pédale d'accélérateur, et apparemment il a des soucis pour rétrograder. Évidemment, tout est électronique, hein, sur ces machines là ça n'est plus du tout évidemment par câble depuis très longtemps, donc c'est un problème que lui ne peut pas gérer à bord de sa monoplace.
Ah non, ça, il peut absolument pas gérer. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de protections sur les possibilités d'enclencher des rapports, etc., en fonction du régime du moteur pour éviter les sur-régimes. Donc, si, et puis, ça dépend de la position de la pédale d'accélérateur, là encore, pour protéger la boîte de vitesse. Donc, s'il y a un ou une combinaison de ces capteurs qui entraîne des confusions dans le management du système, le pilote n'y peut absolument rien.
Et oui, à une certaine époque, évidemment, c'était on pouvait gérer sur une monoplace. On se rappelle d'Ayrton Senna, hein, victorieux de son premier Grand Prix du Brésil, alors que sa boîte de vitesse était bloquée sur le sixième rapport à l'époque. Personne ne le savait. Il était arrivé en transe, on s'en souvient, perclus de crampes et il ne pouvait plus sortir de sa voiture. Et il hurlait à la fois de joie et de douleur. Et bien là, évidemment, maintenant, avec ses monoplaces, le pilote peut faire ce qu'il veut. Il dit que c'est à la sortie du virage numéro 3, c'est-à-dire le virage le plus lent, dit qu'il rencontre des problèmes. C'est un petit peu normal, hein, mais là, difficile de faire ce qu'on pouvait faire à une certaine époque, c'est-à-dire patiner l'embrayage. En tout cas, Verstappen est revenu à 2,5 secondes maintenant seulement, à 2 tours de l'arrivée.
Oui, disons que c'est sûr que c'est au moment où il y a le besoin de plus de relance, que s'il a des problèmes de rétrogradage et s'il a du mal de choisir les rapports les plus bas. Mais heureusement pour lui, c'est pas un circuit où il y a beaucoup, beaucoup de virages lents. Donc, c'est pour peu qu'il maintienne sa vitesse, c'est ce qu'il est capable de faire dans la mesure où il maîtrise parfaitement bien sa voiture et les pneus alors qu'il est. Il maintient cette vitesse et donc il n'y a que vraiment dans les virages lents où il peut peut-être être en difficulté. Heureusement qu'il ne reste plus beaucoup de tours parce qu'autrement ce serait dur comme suspense.
Et oui, on est rentré dans le dernier tour là. Ça, il va être long ce tour. Il va être long. Et 4 km 318 à parcourir pour Charles Leclerc. Peut-être en mesure de remporter la troisième victoire de cette saison 2022 et seulement la cinquième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Voilà qui relancerait évidemment l'intérêt du championnat. Alors que Verstappen est revenu à moins de 2 secondes maintenant. 1,9 seconde d'écart dans chaque secteur. Il regagne du temps. Le pilote hollandais, le champion du monde en titre, va-t-il pouvoir revenir dans le sillage de la Ferrari? Évidemment, ça paraît difficile maintenant, alors que Charles est parvenu à sortir de ce virage numéro 3, le virage le plus lent, le virage le plus problématique dont nous parlions. Il a abordé maintenant le virage numéro 4, il est dans la descente, dans les longues courbes, mais Verstappen se profile maintenant dans les rétroviseurs de la Ferrari de Charles Leclerc. Il reste quelques centaines de mètres, 1,5 seconde d'avance seulement. Et peut-être que même dans la dernière ligne droite, il pourra actionner le DRS s'il revient à moins d'une seconde. Vous le savez, Charles Leclerc en mesure peut-être de remporter maintenant le cinquième Grand Prix de sa carrière. Oui, ça va passer pour quelques dizaines de mètres seulement sur la ligne d'arrivée. Charles Leclerc remporte la troisième victoire de cette saison 2022. Voilà qui relance l'intérêt du championnat. Mais Verstappen est revenu à un souffle dans la boîte de vitesse vraiment de la Ferrari. La fiabilité de la Ferrari qui est en cause. Verstappen deuxième de ce Grand Prix. Lewis Hamilton va terminer troisième devant George Russell. Les deux Mercedes revenus aux avant-postes, troisième et quatrième. Esteban Ocon est un brillant cinquième devant Schumacher, 6e, Norris, 7e, Magnussen, 8e, 9e, Ricciardo et Fernando Alonso, parti de la dernière ligne, arrache le point de la 10e place. Quel Grand Prix, Christophe.
Ouais, incroyable et magnifique victoire de Charles Leclerc malgré les soucis mécaniques rencontrés une nouvelle fois par la Scuderia Ferrari. On rappelle que Carlos Sainz a été contraint à l'abandon après avoir subi une casse moteur et que sa voiture ait pris feu, et puis donc ce problème d'accélérateur pour Charles Leclerc qui ne l'a pas empêché de conserver quelques souffles d'avance sur Max Verstappen. Merci Jean-Luc, merci Denis pour ce beau Grand Prix, et on vous retrouve dans combien de temps maintenant? Il y a une petite pause me semble-t-il, non?
Oui, là, effectivement, il y a 2 semaines de pause. On va se retrouver pour le Grand Prix de France, donc sur le circuit Paul Ricard, en espérant que ce ne soit pas le dernier. Bien sûr, on sait qu'il y a des menaces sur ce Grand Prix de France.
Et ce sera le jour de l'arrivée du Tour de France. Merci Denis, merci Jean-Luc. Bonne fin d'après-midi. Charles Leclerc s'impose aujourd'hui sur le circuit de Spielberg en Autriche. 3e succès de la saison pour le pilote monégasque. 33 km de l'arrivée de la 9e étape du Tour de France. Pierre-Yves Leroux, que se passe-t-il sur la route du Tour?
Eh bien, dans quelques instants, dans 8 km, on sera vraiment au pied de la dernière difficulté du jour. Les 25 derniers kilomètres sont vraiment les plus durs avec le pas de Morgin, puis la montée vers les Portes du Soleil à Châtel. Un homme en tête avec 1 minute 27 d'avance désormais sur ses poursuivants. C'est Bob Jungels qui était dans l'échappée du jour à 1:30. On retrouve toujours le groupe avec Wout Van Aert, avec les Français Warren Barguil et Thibaut Pinot. Le peloton, lui, est 1:30 encore derrière à 3 minutes 05 avec Tadej Pogacar. le groupe O'Connor à 11 minutes et il y a encore un groupe plus loin, le groupe Eto à plus d'un quart d'heure désormais avec les grosses cuisses, les sprinteurs qui n'aiment pas les montées.
Belle performance en tout cas réalisée par le luxembourgeois de la formation Geodeser Citroën, Jérôme, qui fait belle impression ici, 1 minute 30 d'avance sur ses poursuivants, 3-0-6 sur le peloton. Est-ce qu'il peut aller au bout?
Ça va être difficile d'aller au bout, hein. On sait qu'il y a le Pan de Morgins qui fait 16 km, il bataille là tout seul dans cette vallée pour essayer de creuser l'écart ou au moins de maintenir. Alors on sait que c'est un excellent rouleur, hein, Bob Jungels, donc là on voit il est très bien posé sur sa machine, très très aéro, mais par contre est-ce qu'il va pas taper la tête au pied du Pan de Morgins, ça c'est une autre histoire. Et surtout ceux de derrière qui se sont entre guillemets économisés un petit peu en passant des relais, on pense bien sûr à Thibaut Pinot qui a l'air bien en jambes, pourquoi pas McNulty, le coéquipier de Pogacar qui a pas du tout roulé à l'avant, Rigoberto Urán qui veut aller chercher éventuellement le maillot jaune, va falloir qu'ils attaquent très tôt dans ce Pan de Morgins.
Et juste pour tous les calculs aujourd'hui avec le maillot à poids, je disais tout à l'heure que Thibaut Pinot pouvait éventuellement passer devant Simon Geschke. Non, c'est pas le cas parce que Geschke, il a donc pris 10 points plus 3 aujourd'hui, ça fait 13, mais il en avait déjà 4 au classement général, ça fait donc 17, alors que Thibaut Pinot en a 6. S'il passait en tête tout à l'heure, il serait à 16 seulement. Et en revanche, Bob Jungels, lui, en a pris 8 tout à l'heure, donc il pourrait passer éventuellement devant Simon Geschke. Donc la lutte est forte aujourd'hui pour le maillot à poids.
En revanche, on le savait. La balade à poids de Kort Nielsen va s'arrêter aujourd'hui. Lui qui s'était emparé du maillot dès la deuxième étape, qui avait franchi en tête toutes les petites côtelettes danoises et qui a donc vécu une très belle aventure avec sa moustache blonde et ses poids de meilleur grimpeur. 31 km de l'arrivée, la moto RMC se trouve, j'imagine, aux côtés de Bob Jungels, Arnaud.
Non, derrière le groupe qui est derrière lui, on n'a pas été autorisé à passer devant, donc on est resté derrière ce groupe qui perd du temps de manière assez étonnante, parce que c'est vrai que même à un moment dans la descente, Wout van Aert avait pris les choses en main, peut-être pour essayer de réduire l'écart. En tout cas, on l'avait vu en tête de ce groupe, mais c'est un groupe qui, voilà, là on le voit à l'instant, s'entend pas forcément à merveille. Pour revenir sur Bob Jungels, dont la chevauchée me fait penser un petit peu à celle de Ben O'Connor justement l'an passé, qui avait gagné à Tignes, son coéquipier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ben O'Connor qui s'était envolé dans la descente avant de conclure dans la montée de Tignes. Cette chevauchée de Bob Jungels me fait un petit peu penser à cela. En tout cas, voilà, il gagne du temps, il ne cesse de gagner du temps. Et pour revenir également sur Pierre Latour, qui s'est fait reprendre très rapidement par le peloton dans la descente. On n'avait pas fait 2 km dans la descente qu'il avait déjà perdu une trentaine de secondes sur ses anciens compagnons d'échappée. Donc oui, c'est la confirmation que c'était pas le jour, en tout cas en descente, pour Pierre Latour.
Ah non, mais la descente, c'est vraiment pas le truc de Pierre Latour, qui est un très bon grimpeur, mais qui en revanche a beaucoup de mal, et tant qu'il ne fera pas des progrès, et on voit mal comment il pourra en faire aujourd'hui, Jérôme, eh bien il sera condamné dans des étapes comme ça, des étapes avec des cols, et qui dit col dit évidemment descente de col.
Exactement, on sait qu'il a pris de grosses gamelles, hein, Pierre Latour, c'est pour ça qu'il a autant de mal en descente. Alors après, il y a certainement un blocage dans la tête, on sait qu'il travaille, hein, là-dessus. Il y a pas mal de méthodes, aller avec des pilotes de moto, des pilotes automobiles. On se rappelle que Marc Madieu avait fait ça avec Thibaut Pinot notamment pour progresser en descente. Mais vu ce qu'il nous a montré aujourd'hui, à part une course de côte un peu type planche des belles filles, super planche des belles filles qu'on a eu il y a 48 heures, avec vraiment une arrivée sèche au sommet, sans descente avant, je vois pas comment il pourrait gagner une étape où on a un enchaînement de cols.
Alors, le dernier col de la journée, Christophe, tu le connais, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, ce sera le Pas de Morgins. C'est long, c'est dur, mais le revêtement est parfait. Évidemment, on est encore dans un col suisse, mais il peut y avoir des difficultés et des défaillances de certains tout de même, hein.
Oui, c'est vrai, il est sévère dès le pied, avec des pourcentages moyens entre 7 et 8,5%. Il est clair que même s'il est régulier, il est pentu, il est difficile, les routes sont larges, il est exposé plein sud, plein soleil, plein cagnard, et pendant 11 km avant que ça s'adoucisse un tout petit peu, c'est vraiment compliqué, et je pense que Jungels va passer le 1 ou 2 premiers kilomètres assez compliqué.
On n'a pas demandé d'ailleurs à Arnaud la température qu'il faisait sur la route du Tour de France. Ça s'accentue la chaleur aujourd'hui?
Bah, on était à 1778 mètres d'altitude tout à l'heure et déjà on n'avait pas franchement froid, mais là en redescendant dans la vallée à 400 mètres d'altitude, le thermomètre de la moto qui affiche 31 degrés plein soleil, il n'y a pas beaucoup d'air qui circule, donc oui, il commence à faire un petit peu chaud sur la route du Tour. C'est rien j'imagine à côté de ce que l'on aura dans quelques jours, mais en tout cas on a commencé aussi à expliquer aux motos fraîcheurs qu'elles n'hésitent surtout pas à ravitailler, à faire leur taf de ravitaillement, donc cela veut bien dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Oui, la température augmente un petit peu sur la route du Tour.
Oui, c'était d'ailleurs concret il y a quelques instants, on a vu Thibaut Pinot s'asperger d'eau, et on précise que pour cette étape le ravitaillement sera autorisé du kilomètre 20 jusqu'au panneau indiquant les 10 derniers kilomètres, donc il reste encore un petit peu de temps pour récupérer les bidons.
Tiens d'ailleurs, j'ai vu ce petit geste, et ça fait plusieurs fois que je le vois, les coureurs maintenant jettent leurs bidons dans la voiture de la direction de course parce qu'ils n'ont pas le droit de les jeter dehors, donc du coup ils remplissent la voiture de Christian Prudhomme de bidons, de petits sachets. Ça va être sympa dans la voiture de tous les commissaires et de la direction de course. Bah oui, c'est comme ça, hein. On n'a pas le droit de les jeter par terre.
C'est un des jeux favoris aussi de Jérôme Coppel. Entre nous, il se rapproche de votre fenêtre dans la voiture d'à côté,
il jette de l'eau.
Ouais.
C'est pas vrai, c'est moi qui conduis, mais par contre Pierre-Yves Leroux, c'est le spécialiste, vous irez demander à Bruno Fontaine notamment. Pierre... on s'éclate dans l'équipe RMC. Ah,
Pierre-Yves l'autre jour a failli, il voulait descendre sur l'autoroute et aller asperger Dédé Bancala, notre ami de l'Assemblée des départements de France, mais paf, il a démarré avant que Pierre-Yves arrive à l'asperger. 16h36, Eric Salio, est-ce qu'on a besoin d'eau et de rafraîchissement pour cette finale de Wimbledon?
Ah, je pense que ce serait pas de refus pour les deux joueurs parce que ils se donnent vraiment à fond, ils sont vraiment à 200% tous les deux, et c'est vraiment une finale passionnante qui est indécise en 7 partout, hein, entre les deux joueurs. C'est Nick Kyrgios qui avait pris le meilleur départ 6 jeux à 4, réaction de Novak Djokovic avec un deuxième set empoché 6 jeux à 3, on est à 1 partout dans le troisième set. Ça avance très doucement parce que Novak Djokovic est de plus en plus pressant sur les mises en jeu de Nick Kyrgios qui en veut un ramasseur. Il commence vraiment à perdre son calme, Nick Kyrgios, et ça peut être l'une des clés du match. Donc un set partout et un partout dans le troisième set.
Ouais, Djokovic peut prendre la raquette de Kyrgios dans la tête dans quelques minutes. À tout à l'heure, Eric. Non, quand même pas, il s'est calmé. Hein, c'est pas comme Stephen Moore, quand même.
Il peut peut-être prendre un petit avertissement parce que là, il parle beaucoup. Hein. C'est pas du trash talking, mais il parle. C'est agaçant.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette finale et la fin de cette étape du Tour de France. Il reste 26 km 400 avant de franchir la ligne ici à Châtel, mais dans ces 26 km, il y a 16 km d'ascension, le pas de Morgin, puis il y aura également les 2-3 km restants pour arriver jusqu'à la ligne. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'au 24 juillet, tous les soirs, tous les jours même, l'intégral Tour de France pour suivre l'intégralité justement de cette grande boucle 2022. Aujourd'hui, eh bien, c'est la première étape dans les Alpes avec le dernier col de la journée que le peloton, plus exactement le groupe d'échappés qui est désormais en chasse-patate derrière Bob Jungels, vient de franchir. Il est au pied de ce pas de Morgin, Pierre-Yves.
Oui, c'est parti pour le petit groupe de contre. Tiens, on s'interrogeait pour savoir qui était dans la voiture au volant. Il nous avait bien semblé voir Vincent Lavenue aux côtés de Bob Jungels. C'est bien lui qui vient de lui donner des indications. 14 km 400 encore de grimpette à 6 de moyenne pour le Luxembourgeois qui possède 2 minutes d'avance sur le groupe des échappés du jour, avec notamment Thibaut Pinot, avec Warren Barguil. J'aperçois toujours Wout van Aert dans ce groupe. Le peloton, lui, est à 3,23 derrière le peloton avec le maillot jaune de Tadej Pogacar, et évidemment bien plus loin Ben O'Connor à 11,30, et un groupe d'attardés qui se situe, on va regarder précisément où est le dernier coureur actuellement, il est à 17 minutes 25.
Ouais, tout ça est assez stable, les écarts ne bougent pas trop. Cyril, peut-être dans la montée ça va commencer à bouger, peut-être pour un groupe d'échappés certains vont tenter de s'extraire, mais est-ce qu'ils vont réussir à revenir sur Jungels, et puis derrière peut-être la bagarre. En tous les cas, il va falloir peut-être tenter des choses si les adversaires de Pogacar veulent essayer de le mettre à mal. Est-ce que vous y croyez, la bagarre? Non, pas trop.
On peut toujours espérer une bagarre parce qu'on est spectateur. On est là effectivement pour reproduire ce qui va se passer au niveau de la course. Mais j'ai l'impression, depuis un certain nombre de kilomètres,
que l'homme de tête reste vaillant, continue à creuser les écarts, mais entre le groupe, on va dire maillot vert, Pinot et le peloton, l'écart ne bouge plus. Et la question que je me pose actuellement, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a du jus dans le groupe de contre-attaque derrière Jungle? Ça n'est pas certain. Et dans le peloton, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des coureurs qui semblent frétiller également.
On va voir. Arnaud semble penser que Thibaut Pinot a encore du jus.
Oui, oui, mais oui, c'est possible.
J'ai l'impression que Thibaut Pinot a encore du jus. C'est pas le seul, hein, c'est une certitude. Hein, y en a d'autres qui ont du jus. Mais Thibaut Pinot, j'ai bien l'impression qu'il a du jus. Il est venu notamment se porter là il y a quelques instants dans les premières positions de ce groupe. Il avait l'air un petit peu de jauger ce qui se passait derrière. Et là, le voilà qui se passe en première position. Désormais, Thibaut Pinot qui jauge un petit peu ses adversaires. Il est dans une attitude. Il me semble, bon, même si là il vient de se tenir les lombaires dont il a souffert il y a quelques mois, mais il me semble quand même dans une attitude plutôt vaillante, Thibaut Pinot.
Oui, sauf que s'il veut aller chercher la gagne, il faut peut-être pas qu'il attende trois quarts d'heure pour y aller.
Évidemment, à un moment, il va falloir sortir de ce groupe, sortir du bois. Hein, Christophe, est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il va nous faire une attaque à la Pinot?
Ben oui, il faudrait qu'ils sortent, parce que c'est pas la peine de rouler avec le groupe. Maintenant, ça va être chacun pour soi, mano à mano, c'est la cuisse qui va décider. Et s'il a encore un petit peu d'essence, eh ben autant qu'il tente dès maintenant dans les premiers pourcentages. Les 11 premiers kilomètres sont les plus durs. Et là, c'est le meilleur moyen pour revenir sur Bob Jungels. Il faut que ça aille très vite, qu'il bouge le plus vite possible.
Ah, c'est sûr qu'un Thibaut de 2019, là, il t'aurait comblé le retard en quelques instants. Malheureusement, c'est le Thibaut de 2022. Et pour l'instant, il ne nous a pas beaucoup donné de gage de sûreté depuis le début de ce Tour de France, même s'il a fait un beau début de saison avec deux victoires, on le rappelle, autour de Suisse et autour des Alpes, oui, Cyril.
N'oublions pas que le peloton est quand même à seulement 1 minute 5 oui. du groupe Pinot.
Oui.
Il est à portée de fusil du peloton.
Et désormais, il n'y a plus que deux hommes qui accompagnent Pogacar. Ces deux lieutenants de la montagne, ça lui suffit pour l'instant, Jérôme.
Oui, ça lui suffit. Alors, il a George Bennett et Maika, sachant qu'il a McNulty. Hein. Je pense que McNulty, oui, c'est peut-être le meilleur grimpeur de l'équipe de Pogacar avec
Maika. Ah oui, donc.
Avec Maika. Les deux, George Bennett, il était en très mauvaise condition physique au départ du tour, mais il a l'air de s'améliorer jour après jour. Pour l'instant, ça lui suffit. Ils ont un appui devant, au cas où ils aient un pépin derrière. Mais voilà, comme a dit Cyril, il ne va pas falloir que dans le groupe Van Aert les meilleurs grimpeurs attendent trop, parce qu'il a quand même toujours 2 minutes 15 d'avance. On pense à Pinot, on pense à Warren Barguil par exemple, qui a l'air pas trop mal aussi. Donc même si le col est long, va falloir boucher quand même 2 minutes 15 sur Bob Jungels. C'est pas fait.
Ça se jauge en tout cas.
Ça se jauge.
Ça se jauge un petit peu. Pareil, la Warren Barguil qui vient de faire un petit état des troupes. Mais c'est vrai que pour l'instant, personne ne souhaite prendre la main. Et juste pour revenir sur Brandon McNulty, c'est quand même à noter. Bon, c'est normal évidemment, mais que depuis le début de la journée, si j'ose dire, il n'a pas donné un coup de pédale. Il est systématiquement resté en dernière position de ce fameux groupe qui était d'abord donc le groupe de 21 et qui est désormais donc un groupe de 13 en chasse de Bob Jungels.
Alors que Magnus Kort Nielsen, porteur du maillot à poids pour la dernière fois de ce Tour de France, à moins qu'il réalise une échappée incroyable dans les Alpes ou dans les Pyrénées, et largué à l'arrière du peloton à 22 km de l'arrivée. 22 km de l'arrivée, c'est pour l'homme de tête. Donc il est un petit peu plus loin. Magnus Kort Nielsen, on rappelle les écarts, Pierre-Yves, à 16h46.
Oui, parce qu'il y en a un petit peu partout désormais. Bob Jungels est en tête à 22 km de l'arrivée. Le groupe des échappés en sa compagnie, mais qu'il a lâché, est à 2 minutes 23. Le peloton est à 3 minutes 21. Le groupe Ben O'Connor est à 11 minutes 42 et le dernier groupe, lui, est à 17 minutes derrière l'homme de tête.
Ok, nous partons à Wimbledon pour la troisième manche de cette finale homme qui oppose Nick Kyrgios à Novak Djokovic. Un set partout, Eric, est-ce que l'un a pris l'avantage sur l'autre dans cette troisième manche?
Non, pas du tout. Deux jeux partout dans la troisième manche. C'est Nick Kyrgios qui est au service. Il a une balle pour faire trois jeux à deux sur sa mise en jeu, mais le niveau est franchement, il est extraordinaire, il est bluffant. Les deux joueurs se répondent coup par coup. C'est ouais, il y a vraiment des highlights. Il y a eu des coups entre les jambes de Nick Kyrgios. Chapeau aux deux, parce que on savait que ça pouvait procurer des feux d'artifice, mais on les a à répétition. Attention, Kyrgios, il commet une double faute qui s'adresse à l'arbitre. Je ne sais pas ce qu'il a encore, mais en tout cas, il est à 2-2 Quaranta. Attention, Nick Kyrgios, il ne faut surtout pas ouvrir une petite porte à Novak Djokovic, parce qu'il va s'engouffrer dedans, c'est une évidence.
À tout à l'heure, Eric. Il est 16h47. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de cette 9e étape du Tour de France à 22 km de l'arrivée à Châtel. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Allez, juste avant les infos de 17h, un tout petit point sur la course avec malheureusement un coureur français qui vient d'être lâché du groupe d'échappée. C'était mon favori du jour.
Ah bah oui, mais c'est ça. Mais je pense que mon favori, moi, va peut-être pas gagner aujourd'hui. C'est Bob Jungels qui est en tête à 20 km de l'arrivée. Et ce groupe des échappés est à 2 minutes 30. Warren Barguil vient d'être lâché. Mais surtout, le groupe maillot jaune n'est plus qu'à 30 secondes derrière ce gros groupe et va certainement revenir puisque personne n'essaye de sortir là de ce groupe Van Aert, Thibaut Pinot présent également. Donc voilà, compliqué pour les pronostics aujourd'hui.
Allez, 16h52 pour ne rien rater de la fin de cette étape. On va avancer les infos sur RMC.